en septembre là, pour commencer cette année, un message qui du coup peut nous conduire durant tout ce fil. Et voilà, on est dans cette grande thématique de la sanctification, on va aborder plusieurs séries cette année, à commencer par le péché. Mais avant tout, ce matin, je voulais vous parler d'une chose la plus importante. Il y a une chose qu'il faut retenir durant cette année, et on va parler de la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Qu'est-ce que la Bible en dit et qu'est-ce dont il est en question? J'ai rajouté ici un phénix. Je sais pas si vous avez, c'est quoi un phénix? Alors c'est dans les légendes antiques de l'Antiquité, il existait un oiseau mythique appelé le phénix, et on disait qu'au terme de sa vie, alors voilà, c'est un oiseau imaginaire, hein, il s'installait dans son nid et il mourait quelque part, il se consumait dans le feu et il renaissait dans des cendres dont il avait été brûlé pour renaître beaucoup plus fort, brillant, plus jeune, beaucoup plus fort. Et ce phénix, qui était un symbole païen hein, dans l'époque romaine, les chrétiens vont le prendre en disant « Nous chrétiens, le phénix nous ressemble. Notre sauveur est mort à la croix, il est ressuscité beaucoup plus fort. Et nous chrétiens, nous devons mourir à nous-mêmes pour ressortir sur une nouvelle création, une nouvelle nature. » Et le phénix du coup va être représenté dans toutes les églises du 1er siècle. Et alors je ne sais pas si vous le savez, hein, mais du coup c'est un symbole pour nous qui nous parle. Comme le phénix sort de ses cendres, le chrétien qui naît d'en haut, qui naît de nouveau, reçoit une vie nouvelle de Dieu. Ce n'est pas un simple changement dont on parle. La nouvelle naissance n'est pas un changement extérieur, une amélioration de son ancienne vie, une version 2.0 de ce que vous êtes. Non, 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 non. C'est mourir à soi-même. Pour naître de nouveau, avant de naître de nouveau, il faut mourir à soi-même. Et on va voir ce matin qu'est-ce que ça veut dire mourir à soi-même, pour ensuite du coup laisser Dieu nous faire revivre en lui. Cette transformation, c'est une transformation radicale, intérieure, opérée par le Saint-Esprit. Le terme « nouvelle naissance » dans la Bible, il est présenté aussi comme le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient brûler en nous tout ce qui n'est pas de lui pour rejaillir et faire de nous une nouvelle créature. Naître d'en haut, le terme grec ici, il y a les deux significations, naître d'en haut, nouvelle naissance, ça veut dire la même chose. Et je vous invite à prendre du coup ce passage que vous connaissez sans doute, hein, dans Jean chapitre 3, versets 1 à 8. C'est un passage assez connu, mais qu'on va lire ce matin et qui nous parle. C'est un dialogue que Jésus a avec un chef religieux, Nicodème. Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens, c'était un chef des juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé parmi nous pour enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui dit « Vraiment, je te l'assure, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux ? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Mais ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit « il vous faut naître d'en haut ». Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Amen. Merci encore pour ta parole, mon Dieu, ce matin. Viens, Saint-Esprit, encore bousculer ce que nous sommes, que dans nos vieilles natures, qui peuvent peut-être demeurer encore, tu puisses encore brûler, consumer, mon Dieu, ce qu'il y a au plus profond de nous pour que nous puissions renaître de la vie d'en haut, de la vie de toi, Jésus. Amen. Mon premier point ici, c'est la nécessité de la nouvelle naissance. C'est le premier verset, versets 1 à 3. Nicodème, c'est un homme religieux. C'est un chef des religieux, c'est ce que dit le texte. Il est respecté par les chefs des Juifs, instruit dans les Écritures, et pourtant Jésus va lui dire sans détour, « Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Le mot que Jésus utilise ici peut se traduire à la fois par naître de nouveau ou naître d'en haut. Et Nicodème pense à une deuxième naissance physique. D'ailleurs, il pose la question, est-ce qu'il faut que je renaisse physiquement ? Ce qui le rend perplexe, hein, d'ailleurs. Mais Jésus ici veut dire autre chose. C'est une naissance qui vient de Dieu, qui vient d'en haut, par son esprit. Voilà pourquoi on ne peut pas se la donner à soi-même. Elle est un don du ciel. Est-ce que vous, ce matin, vous pensez qu'on peut entrer au ciel simplement en étant bon? Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui est bon, effectivement, ouais. C'est ça, c'est la foi et la foi seule. Mais Jésus ici veut nous montrer que finalement, même le meilleur des religieux, parce que Nicodème c'était un très bon religieux, avait besoin de naître de nouveau. Ce matin, ce passage-là, il n'est pas fait pour des non-chrétiens. Jésus, il ne parle pas à un pécheur, à un brigand ou à un meurtrier, il parle à un religieux, il parle à des chrétiens. Et pourquoi il parle à des chrétiens? Parce que bien souvent, ceux qui pensent connaître Dieu ne sont pas nés de nouveau. Ils vivent chrétiens, ils parlent chrétiens, comme Nicodème, hein. Et ils pensent que les autres, ceux qui font n'importe quoi, eux sont perdus. Et que eux, attendez, moi je vais à l'église tous les dimanches, je suis même plus chef des religieux, j'enseigne la parole. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Il ne lui demande pas comment ça va très longtemps. Il lui dit tout de suite, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Il ne dit pas peut-être tu ne le verras pas. Aujourd'hui, ce que Jésus déclare à Nicodème, hein, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Toi qui connais la loi, il va lui répondre plus tard, hein, dans la suite du texte, vous le verrez. Toi qui connais la loi, tu ne connais même pas cela. Tu enseignes des choses, mais tu ne vis rien. Il y a d'autres passages où Jésus va parler de ça. Il y a le jeune homme riche, il respectait les commandements, il va être fidèle à Dieu, et pourtant, même s'il était sincère, il lui manquait la vie nouvelle. Et pour nous, c'est pareil. Ce n'est pas notre éducation, notre culture chrétienne, mais nos bonnes œuvres qui ouvrent le royaume. Bien souvent, tout ça, on est d'accord. On sait que ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent. Et pourtant, des fois, dans notre vie, nous ne sommes pas forcément nés de nouveau. La nouvelle naissance n'est pas un bonus spirituel. Réservée aux grands pécheurs, elle est nécessaire pour tous. Mais elle est peut-être plus difficile pour ceux qui pensent qu'ils sont parfaits. Comme Nicodème. Nicodème, c'est intéressant dans les évangiles, parce que c'est avec Nicodème que Jésus va avoir cette discussion de la nouvelle naissance. Il ne l'aura pas avec les autres. Parce que les autres ont conscience qu'ils sont pleinement mauvais et qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et celui qui est là, qui vient tous les dimanches matin, peut-être comme vous ce matin, comme nous, la question que finalement Dieu nous pose, c'est est-ce que nous sommes réellement nés de nous ? Nés d'en haut. Nés de Dieu. Est-ce que son Saint-Esprit est descendu dans nos cœurs et a fait le ménage ? On va voir que être né de nouveau, ça se voit. C'est pas quelque chose qu'on peut produire de soi-même. Alors on peut faire semblant, hein. Mais ça se voit, et ça se voit surtout dans l'épreuve. Quand tout va bien, même celui qui ne connaît pas Dieu, il peut faire du mieux qu'il peut, il peut aimer les autres. Mais dans l'adversité, quand ton ennemi te blesse, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui prime? Est-ce que c'est le pardon qui est moteur? Ou est-ce que c'est la fierté, l'orgueil? Qui est le lot de tous les hommes, hein, qui prend le dessus. Et c'est mon deuxième point, la nature de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? Nicodème, il est perdu dans ce dialogue. Il va demander à Jésus, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Lui, il pense à une naissance physique. Mais Jésus, ici, parle d'une naissance spirituelle, d'eau et d'esprit. Je vous pose cette question. Qu'est-ce qui change vraiment quand quelqu'un devient chrétien? Oui, Friday. Toute chose, oui, effectivement. Mais en premier lieu, on est adopté, oui, ça change. Mais qu'est-ce que Dieu vient changer au plus profond de nous? Le cœur. Quand on parle de cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est notre cœur physique, problème cardiaque, ah ben ça tombe bien, j'ai besoin de Jésus, allez. L'âme, ouais, du coup, qu'est-ce que ça veut dire de manière plus simple en français? En fait, quand on parle de cœur, d'âme, ici, c'est la vie intérieure. Synonyme en français, c'est la vie intérieure. Dieu vient changer notre vie intérieure. Là où tout se passe. Là où nos désirs naissent, bons comme mauvais. Et tout le reste, nos attitudes, nos comportements, nos paroles, découlent de ce changement intérieur. De cette capacité à se dire, finalement, tout ce que je suis, j'ai besoin de le laisser au pied de la croix. Ce que Dieu attend, ce n'est pas qu'on laisse de côté ce que nous, il nous semble que Dieu n'est pas en accord, mais qu'on lui laisse tout. Y compris ce qu'on pense que c'est juste. Parce que le Saint-Esprit ne pourra pas venir faire le ménage avec quelqu'un qui pense qu'il est vivant, avec quelqu'un qui meurt à lui-même. Nicodème pensait qu'il fallait peut-être réformer l'extérieur, faire un ravalement de façade, hein, peut-être. Mais Jésus ici parle d'un changement radical, une vie nouvelle donnée par l'Esprit. Et je vais vous raconter une histoire. Une histoire un peu qui illustre cela. Une histoire, c'est une histoire que, alors, je sais pas s'il y a des Ivoiriens ici, mais voilà, que j'ai trouvé, c'est une histoire que, en Côte d'Ivoire, on raconte. C'est l'histoire d'un bouc qui on peut plus d'être un bouc et qui veut devenir un lion par ses propres efforts. Du coup, ce bouc, il a un ami, c'est un singe dans la savane, et il va trouver son ami singe en lui demandant, bah, toi, tu as l'air assez malin, assez intelligent. Je n'aime pas le fait que je sois bouc, qu'est-ce que je peux faire pour devenir un lion? Et son ami singe va lui dire, bah écoute, c'est pas très compliqué, si tu veux être un lion, déjà change ta démarche. Ne marche pas comme un bouc, marche comme un lion. Prends le temps d'examiner comment marche le lion, et tu marches comme eux. Et donc il va s'entraîner, le bouc, pendant des semaines et des semaines, et il va réussir à marcher comme un lion. On a dans la savane, du coup, un bouc qui marche comme un lion. Vive le bouc. Et le bouc retourne voir le singe et lui demande du coup s'il est maintenant un lion. Et le singe lui dit non, pas encore. Pas encore, il faut aussi que tu rugisses comme un lion. C'est plus difficile, mais vu que tu y es arrivé dans la démarche, je pense que tu peux rugir comme un lion. Donc arrête de bêler comme un bouc et rugis comme un lion. Il va s'exercer encore plus longtemps, le bouc. Et quelques mois après, dans la savane, on entend un rugissement. Et la girafe qui passe par là entend ce rugissement, elle prend peur et elle voit le bouc qui rugit. Et elle dit au bouc, tu m'as fait peur, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Le bouc, tu perds la tête, tu n'es pas un lion, tu es un bouc. Et le bouc, déçu que la girafe ne l'ait pas pris pour un lion, va retourner voir son ami singe, découragé, puisque ça fait maintenant quelques mois qu'il essaye de devenir un lion et que ça ne marche pas. Et du coup, le singe va réfléchir plus longtemps. Et il va dire, bon, écoute, là, il faut un changement radical, tu dois changer ton alimentation, tu manges de l'herbe, il faut que tu manges de la viande. Garde aussi un os dans ta gueule, comme ça les gens te verront que tu es différent des autres boucs. Et puis, moi, je vais te faire une pancarte que je vais mettre autour de ton cou, il y aura marqué « Je suis un lion ». Avec ça, je pense que tout le monde saura que tu es un lion. Et puis, voilà, la dernière pièce qui te manque, peut-être, les lions ne vivent pas tout seuls, ils vivent en troupeau, en meute. Donc tu vas trouver une meute de lions, tu vas rugir comme un lion, avec ton os dans la bouche, ils vont voir que tu es des leurs. Ce bouc, il va aller, du coup, chercher une meute de lions, il va rugir comme un lion avec sa pancarte autour du cou, et les lions vont le voir arriver, et ils vont dire, ah, le repas est arrivé, et ils vont faire qu'une bouchée de ce bouc. Nous qui sommes plus intelligents que le singe, qu'aurait dû faire le bouc pour devenir un lion? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez une idée? Oui, mais là, il veut être un lion. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire à ce bouc? Oui, mais est-ce que ça suffira pour qu'il soit un lion? La réponse, c'est qu'un bouc ne peut pas devenir un lion. C'est impossible. Il peut user de subterfuges, faire semblant, mais il ne pourra jamais devenir un lion. Parce qu'un bouc, c'est un bouc. Pour être un lion, il faut naître lion. Il ne faut pas naître bouc, il faut naître lion. Et pour nous, c'est la même chose. On ne peut pas être chrétien. On ne peut pas naître de Christ si nous ne mourons pas à nous-mêmes. Et bien souvent, mes frères et sœurs, dans nos vies, le bouc, il est toujours là. Et dans nos vies, on se croit des lions, alors qu'on reste que des boucs. Et quand l'épreuve frappe, c'est là qu'on voit, ah bah dis donc, le bouc, il s'enfuit en courant. C'est pas le lion qui rugissait, qui disait, moi je suis fort dans le Seigneur, et tout ça, et quand l'épreuve arrive, il pleure et il s'en va, la queue entre les pattes. Ce que Dieu attend de nous, c'est de faire mourir le bouc. Et chacun de nous-mêmes, et ça c'est la première étape la plus difficile, hein, mes frères et sœurs, c'est de faire mourir tout ce que nous, toutes les attaches que nous pouvons avoir dans ce monde et qui prennent la place de Dieu. C'est difficile, c'est dur, mais ce que Dieu promet en retour, c'est la vie en abondance. Une vie remplie de lui, c'est ce que Jésus appelle hein, le baptême de l'Esprit. Une vie que lui seul peut donner. Pour Ézéchiel, le prophète Ézéchiel va dire ceci, et c'est Dieu qui va parler, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur réceptif. » Dieu promet un cœur nouveau et un esprit nouveau. On va le voir dans les évangiles. Hein. On va voir l'apôtre Paul, le persécuteur et meurtrier qu'il était. Il va devenir passionné du Christ. Comment ça va se faire ? Il va mourir à lui-même. Paul va dire, il va le répéter, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tous les apôtres et tous les premiers chrétiens vont vivre cela, et c'est pour ça, quand ils meurent pour leur foi, ils sont joyeux, parce que ce n'est pas eux qui vivent, c'est le Christ, et ils savent du coup le cadeau que Dieu leur a fait. Les Romains ne vont pas comprendre. Et ils vont tellement pas comprendre et voir du coup l'amour de Dieu au travers de ces personnes que même l'Empire romain va changer. Il va devenir chrétien. Être chrétien, ce n'est pas ajouter Jésus dans sa vie, c'est faire le ménage avant. C'est recevoir une vie nouvelle, c'est une création nouvelle en Christ. Peut-être que ce matin tu es là comme tous les dimanches à l'église, peut-être depuis même des années, hein, comme Nicodème. Nicodème, on estime que ça faisait 30 ans qu'il était au temple. Il connaissait la Bible, hein, très très bien, il connaissait la Torah, et pourtant, Nicodème, il a conscience quand Jésus arrive qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque cette vie de l'esprit dont Jésus vit et parle, cet esprit qui vient faire mourir au plus profond de nous-mêmes ce que nous sommes. Parce que, les frères et sœurs, ce matin, c'est impossible pour nous de mourir à nous-mêmes. Nous sommes trop attachés à ce que nous sommes, à notre culture, notre tradition, nos comportements, notre culture familiale. On est trop attachés à cela. Ce que nous avons besoin, c'est d'une conviction du Saint-Esprit pour passer par la case repentance, pour que nous puissions voir l'ampleur de ce que nous sommes et la grâce de Dieu qui découle derrière. Alors certains, vous pourrez vous demander, mais si cela ne vient pas de moi, et que cela vient de Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Puisque la nouvelle naissance, elle ne vient pas de nous. Vous pouvez prendre une décision ce matin, ça ne fera pas de vous quelqu'un de nouveau. Comme le bouc, d'ailleurs. La réponse, elle est simple, nous ne pouvons rien produire par nous-mêmes. Mais nous pouvons venir à Jésus avec un cœur ouvert et sincère, ça c'est possible. Et si nous approchons de Dieu d'un cœur ouvert et sincère, nous nous exposons du coup à son action et surtout à l'action du Saint-Esprit dans nos vies, qui lui est capable de nous donner la conviction de pouvoir faire mourir au plus profond de nous-mêmes ce que nous sommes pour que lui puisse nous faire naître de nouveau. Notre rôle n'est pas de créer la naissance, mais de répondre à l'œuvre de Dieu. Et cela commence par la repentance, reconnaître c'est tort, reconnaître finalement que nous ne sommes rien. Et ce matin, mes frères et sœurs, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Hein. Peut-être que vous êtes baptisés depuis longtemps, ou pas, hein, peu importe. Et peut-être que cette case de la nouvelle naissance, vous ne l'avez pas passée. Peut-être que ce matin, vous êtes comme ce bouc qui gesticulait dans la savane. Bon, personne ne vous voit, et personne, vous avez l'impression que tout le monde vous voit comme un lion, mais finalement, Dieu sait ce qu'il en est. Et il vous dit comme Nicodème ce matin, tu as besoin de naître d'en haut. Le dernier point, Jésus conclut comme avec cette phrase, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et ici, c'est le mystère de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une œuvre mystérieuse. On ne la contrôle pas. Elle vient d'en haut et on ne peut pas la produire par nos propres efforts. Ça peut être un changement instantané dans le cœur de quelqu'un. Elle peut être progressive, mais dans tous les cas, elle ne prend pas 10 ans pour s'opérer. Puisque la vie de l'esprit, ici, l'esprit combat quelque part ce que nous sommes en nous-mêmes et qui est loin de ce que Dieu est. Jésus prend l'exemple du vent. Le vent ne le commande pas. Par contre, on en voit les effets. Le vent ne le voit pas, mais quand il souffle fort, on voit les dégâts qu'il peut faire. Quelqu'un qui est rempli de la vie de l'esprit, on ne commande pas quand ça vient. Quand quelque part nous passons par cette case de repentance, mais on en voit les effets, le fruit, ce que la Bible va appeler d'ailleurs le fruit de l'esprit. Un fruit qui est impossible aux hommes de pouvoir suivre. Alors on peut faire semblant pendant un temps, mais pas quand l'épreuve frappe, pas sur le long terme. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui est né de nouveau, ça se voit. Pas besoin de discuter 10 ans, ça se voit directement. On sent au fond de son cœur qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Que le langage qu'il parle, il le vit au plus profond de son être et qu'il laisse le Saint-Esprit quelque part travailler au plus profond de son être. C'est Dieu qui ouvre les cœurs à travers son Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit qui permet de faire le ménage, finalement c'est aussi lui qui nous convainc de passer par la case repentance, que nous avons besoin du Seigneur, parce que seuls, finalement, nous courons à notre perte. Notre rôle n'est pas de fabriquer la nouvelle naissance, c'est d'écouter l'Évangile, de croire en Christ et de nous exposer à l'action de son Saint-Esprit. Nous annonçons la parole, et moi je le répète ce matin, ce n'est pas une prédication qui change les cœurs, c'est l'action de Dieu. Pour conclure, imaginez un homme qui achète une maison délabrée. Il change les fenêtres, il repeint les murs, il refait le jardin, tout semble beau. Mais un jour, les fondations s'écroulent parce qu'elles étaient pourries. De la même manière, beaucoup pensent que devenir chrétien, c'est améliorer un peu l'extérieur, changer de vocabulaire, avoir des habitudes religieuses, faire le bien. Comme Nicodème. Mais si les fondations ne sont pas changées, la maison s'effondre. Cette fondation ici, c'est l'application de la parole. Pas la connaître juste de manière intellectuelle, mais se laisser entraîner par elle. Et ce matin, je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs, et peut-être que vous le savez. Il est impossible aux hommes d'obéir à Dieu. D'ailleurs, tout l'Ancien Testament est là pour cela, c'est Paul qui va le dire. La loi que Dieu donne à Moïse, elle est là pour montrer que les hommes sont incapables par eux-mêmes d'obéir à Dieu. Et qu'ils sont tellement incapables par eux-mêmes qu'ils ont juste besoin de dire au Seigneur, je ne suis rien devant toi, toi viens me donner ta vie. Et celui qui est rempli de l'Esprit, lui, est capable d'accomplir la volonté de Dieu. Il ne sera pas parfait, mais il avancera dans un chemin de sanctification et on verra dans sa vie un véritable changement. Nicodème avait besoin de naître de nouveau, et nous aussi, mes frères et sœurs, ce matin, nous avons besoin peut-être de naître de nouveau. Sa naissance, elle vient de l'Esprit, par l'œuvre du Christ à la croix, et dans sa résurrection. Et la vraie question ce matin, ce n'est pas est-ce que je suis religieux, est-ce que je suis chrétien, est-ce que je suis moral, mais est-ce que je suis né d'en haut ? Celui qui ne l'est pas, il ne verra pas le royaume de Dieu. Jésus est assez clair là-dessus. Il l'explique avec Nicodème, mais durant tout le Nouveau Testament, Paul va le répéter, faire mourir sa vieille nature. J'ai mis une synthèse, je pense que tu peux mettre, Pauline. Voilà. Que faire si je ne suis pas né de nouveau ? Ou peut-être que vous êtes chrétien depuis longtemps et que finalement vous vous dites, est-ce que j'ai vraiment vécu cette expérience et peut-être pas. Je donne du coup des points là que Dieu nous donne, de se tourner vers Christ, de reconnaître qu'on ne peut rien produire par nous-mêmes. Lui confesser cela, ouvrir son cœur à l'Esprit, lire la parole, écouter l'Évangile, prier de manière sincère et ensuite lui faire confiance. Ça, c'est l'inconnu. Lui faire confiance parce qu'il y a uniquement dans ce troisième point que Dieu peut permettre la nouvelle naissance. C'est s'attendre à lui. C'est ce que je dis moi à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui se disent même athées, qui ne connaissent pas Dieu. Je cite ce verset, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dis que Dieu n'existe pas, moi je te dis qu'il existe, et d'ailleurs tu peux le voir si tu le cherches sincèrement. Tous ceux qui cherchent sincèrement le Seigneur se révèle. Par contre, s'il n'y a pas de sincérité, il n'y a rien. C'est le vieil homme ici qui prend le dessus. Avant de prier, je voudrais lire ce passage qui résume un peu tout ce qu'on vient de parler ce matin. C'est Paul qui va parler aux Galates. Galates chapitre 5, verset 16. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. Entre eux, c'est la guerre. C'est ce que Paul va dire. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par ce même esprit. Merci Père encore, mon Dieu, pour ta parole ce matin. Nous voulons nous placer devant toi. Toi qui as pu parler à Nicodème, ce chef religieux qui était chrétien, qui se disait chrétien. Nous, ce matin, nous ne voulons pas être comme Nicodème, juste parler, mais vivre. Vive, mon Dieu, la nouvelle naissance. Viens, Saint-Esprit, encore nous baptiser de feu. Que tu puisses, comme le phénix, mon Dieu, consumer en notre intérieur, mon Dieu, tout ce qui n'est pas à ta ressemblance, à ta gloire, pour que tu puisses faire jaillir en nous ta vie que tu promets en abondance, une vie pleinement entière et épanouie en toi, Jésus. Je te prie pour chacun de nous ici présents, tu viens travailler, mon Dieu, au plus profond de nous-mêmes. Donne un cœur sincère, un cœur tendre. Tu viens clouer aussi, mon Dieu, notre ego, nos fiertés, tout ce qui pourrait nous éloigner de toi, pour que toi, tu puisses faire ton œuvre, Jésus, et que nous puissions ne pas nous perdre loin de ta face, pour que nous puissions un jour voir ta gloire, voir ton royaume, et y participer pleinement. Jésus, viens nous faire grâce. Ce choix est décisif dans nos vies, mais je crois, Seigneur, que tu nous aimes, toi qui as donné ta vie pour nous, et que ce matin même, Saint-Esprit, tu travailles dans les cœurs de chacun et tu opères ton œuvre miraculeuse qu'est la nouvelle naissance. Amen.